Chapitre 6 La fille du Mississippi. Auriol ne protesta point contre la promesse de 100 pistoles, parce qu'on avait dit qu'il était gentilhomme. Cydalise ne demandait que plaie et bosse, la bonne fille. Elle dit « Du moment que l'on va rire un petit peu, j'en suis. » Son éducation ne fut pas longue à faire. L'instant d'après, elle se glissait de groupe en groupe et atteignait son poste, qui était entre nos deux maîtres d'armes et Aurore. En même temps, une escouade détachée par le général Chaverny escarmouchait contre Cocardas et Passepoil. Une autre escouade manœuvrait pour couper Aurore. Cocardas reçut le premier un coup de coude. Il jura un terrible « Cap et débiou !» et mit la main à sa rapière. Mais Passepoil lui dit à l'oreille « Marchons droit !» Cocardas rongea son frein. Une franche bourrade fit chanceler Passepoil. « Marchons droit !» lui dit Cocardas, qui vit ses yeux s'allumer. Ainsi, les rudes pénitents de la trappe s'abordent et se séparent avec le stoïque « Frère, il faut mourir ». « As pas pur !» Un lourd talon se posa sur le cou de pied du Gascon, tandis que le Normand trébuchait une seconde fois parce qu'on lui avait mis un fourreau d'épée entre les jambes. « Marchons droit !» Tarane, encouragé, vint donner en plein contre Passepoil et l'appela maladroit. Gironne heurta rudement Cocardas et, pour surcroît, le traita de bélitre. « Marchons droit, marchons droit !» Mais les oreilles de nos deux braves étaient rouges comme du sang. « Ma caillou !» murmura Cocardas à la quatrième offense et en regardant piteusement Passepoil, « Je crois que je vais me fâcher !» Passepoil soufflait comme un phoque. Il ne répondit point. Mais quand Tarane revint à la charge, ce financier imprudent reçut un colossal soufflet. Cocardas poussa un soupir de soulagement profond. Ce n'était pas lui qui avait commencé. Du même coup de poing, il envoya Gironne et l'innocent Auriol rouler dans la poussière. Il y eut bagarre. Ce ne fut qu'un instant. Mais la seconde escouade, conduite par Chaverny en personne, avait eu le temps d'entourer et de détourner Aurore. Cocardas et Passepoil, ayant mis en fuite les assaillants, regardèrent autour d'eux. Ils virent toujours le domino rose à la même place. C'était Cydalise qui gagnait ses 100 pistoles. Cocardas et Passepoil, heureux d'avoir fait impunément le coup de poing, se mirent à surveiller Cydalise, en répétant avec triomphe « Marchons droit !» Pendant ce temps, Aurore, désorientée et ne voyant plus ses deux protecteurs, était obligée de suivre les mouvements de ceux qui l'entouraient. Ceux-ci faisaient semblant de céder à la foule et se dirigeaient insensiblement vers le bosquet situé entre la pièce d'eau et le rond-point de Diane. C'était au centre de ce bosquet que s'élevait la loge de Maître Le Bréant. Les petites allées percées dans les massifs allaient en tournant selon la mode anglaise qui commençait à s'introduire. La foule suivait les grandes avenues et laissait ses sentiers à peu près déserts. Auprès de la loge de Maître Le Bréant, surtout, il y avait un berceau en charmille qui était presque une solitude. Ce fut là qu'on entraîna la pauvre Aurore. Chaverny porta la main à son masque. Elle poussa un grand cri, car elle l'avait reconnu pour le jeune homme de Madrid. Au cri poussé par Aurore, la porte de la loge s'ouvrit. Un homme de haute taille, masqué, entièrement caché par un ample domino noir, parut sur le seuil. Il avait à la main une épée nue. « Ne vous effrayez pas, charmante demoiselle, » dit le petit marquis. « Ces messieurs et moi, nous sommes unanimement vos soumis admirateurs. » Ce disant, il essaya de passer son bras autour de la taille d'Aurore, qui cria au secours. Elle ne cria qu'une fois, parce qu'Albret, qui s'était glissé derrière elle, lui mit un mouchoir de soie sur la bouche. Mais une fois suffit. Le domino noir mit l'épée dans la main gauche, de la droite il saisit Chaverny par la nuque et l'envoya tomber à 10 pas de là. Albret eut le même sort. 10 rapières furent tirées. Le domino, reprenant la sienne de la main droite, désarma de 2 coups de fouet Gironne et Nocé, qui étaient en avant. Auriol, voyant cela, ne fit ni une ni deux. Gagnant tout d'un coup ses éperons, ce gentilhomme nouveau prit la fuite en criant « À l'aide !» Montaubert et Choisy chargèrent. Montaubert tomba à genoux, d'un fendant qu'il eut sur l'oreille. Choisy, moins heureux, eut une balafre en plein visage. Les gardes françaises arrivaient cependant au bruit. Nos coureurs d'aventure, tous plus ou moins malmenés, se dispersèrent comme une volée des tourneaux. Les gardes françaises ne trouvèrent plus personne sous le berceau, car le domino noir et la jeune fille avaient aussi disparu comme par enchantement. Ils entendirent seulement le bruit de la porte de Maître Lebrihan qui se refermait. « Tubleu !» dit Cheverny en retrouvant Navaille dans la foule. « Quelle bourrade ! Je veux joindre ce gaillard-là, ne fût-ce que pour lui faire compliment de son poignet !» Gironne et Nocé arrivaient la tête basse. Choisy était dans un coin, avec son mouchoir sanglant sur la joue. Montaubert cachait son oreille écrasée du mieux qu'il pouvait. Cinq ou six autres avaient aussi des horions plus ou moins apparents à dissimuler. Auriol seul était intact, le brave petit ventre. Ils se regardèrent tous d'un air penaud. L'expédition avait mal réussi, et chacun parmi eux se demandait quel pouvait être ce rude jouteur. Ils savaient les salles d'armes de Paris sur le bout du doigt. Les salles d'armes ne faisaient point florès comme à la fin du siècle précédent. On n'avait plus le temps. Personne, parmi les virtuoses de la rapière, n'était capable de mettre en désarroi 8 ou 10 porteurs de brettes, et encore sans trop de gêne en vérité. Le domino noir n'avait eu garde de s'embarrasser dans les longs plis de son vêtement. C'est à peine s'il s'était fendu 2 ou 3 fois bien posément. Un maître poignet, il n'y avait pas à dire non. C'était un étranger. Dans les salles d'armes, personne, y compris les prévôts et les maîtres, n'était de cette merveilleuse force. Tout à l'heure, on avait parlé du duc de Nevers tué à la fleur de l'âge. Voilà un homme dont le souvenir était resté dans toutes les académies, un tireur vite comme la pensée, pied d'acier, œil de lynx. Mais il était mort, et certes chacun ici pouvait témoigner que le domino noir n'était pas un fantôme. Il y avait un homme du temps de Nevers, un homme plus fort que Nevers lui-même, un chevau léger du roi qui avait nom Henri de Lagardère. Mais qu'importait le nom du terrible ferrailleur ? La chose certaine, c'est que nos roués n'avaient pas de chance cette nuit. Le bossu les avait battus avec la langue, le domino noir avec l'épée. Ils avaient 2 revanches à prendre. Le balai, le balai! Son Altesse Royale, les princesses, par ici, par ici! Monsieur Lowe, par ici! Monsieur Lowe avec Milord Stairs, ambassadeur de la reine Anne! Ne poussez pas, que diable! Place pour tout le monde! Maladroit, insolent, butor! Et le reste, le plaisir des cohues, des côtes enfoncées, des pieds broyés, des femmes étouffées. Du fond de la foule, on entendait des cris aigus. Les petites femmes aiment de passion à se noyer dans la foule. Elles ne voient rien absolument, elles souffrent le martyre, mais elles ne peuvent résister à l'attrait de ce supplice. Monsieur Lowe! Tenez, voici Monsieur Lowe qui monte à l'estrade du régent. Celle-ci, en domino gris de perles, est Madame de Parabère. Celle-là, en domino puce, est Madame la Duchesse de Falaris. Comme Monsieur Lowe est rouge, il aura bien dîné. Comme Son Altesse Royale est pâle, il aura eu de mauvaises nouvelles d'Espagne. Silence! La paix! Le balai! Le balai! L'orchestre, assis autour du bassin, frappa son premier accord, le premier coup d'archet dont on parlait encore en province voilà 15 ou 20 ans. L'estrade s'élevait du côté du palais, auquel elle tournait le dos. C'était comme un coteau fleuri de femmes. Du côté opposé, un rideau de fond monta lentement par un mécanisme invisible. Il représentait naturellement un paysage de la Louisiane, des forêts vierges lançant jusqu'au ciel leurs arbres géants, autour desquels des lianes s'entortillaient comme des boas. Des prairies à perte de vue, des montagnes bleues et cet immense fleuve d'or, le Mississippi, le père des eaux. Sur les bords on voyait de riants aspects et partout ce vert tendre que les peintres du XVIIIe siècle affectionnaient particulièrement. Des bocages enchanteurs, rappelant le paradis terrestre, se succédaient, coupés par des cavernes tapissées de mousse, où Calypso eût été bien pour attendre le jeune et froid Télémaque. Mais point de nymphes mythologiques. La couleur locale essayait de naître. De jeunes filles indiennes erraient sous ces beaux ombrages, avec leurs écharpes pailletées et les plumes brillantes de leurs couronnes. Des jeunes mères suspendaient gracieusement le berceau du nouveau-né aux branches des sassafras balancées par la brise. Des guerriers tiraient de l'arc ou lançaient la hache. Des vieillards fumaient le calumet autour du feu du conseil. En même temps que le rideau du fond, diverses pièces de décor, ou fermes, comme on dit en langage de Manique, sortirent de terre, de sorte que la statue du Mississippi, placée au centre du bassin, se trouva comme encadrée dans un splendide paysage. On applaudit du haut en bas de l'estrade, on applaudit d'un bout à l'autre du jardin. Auriol était fou. Il venait de voir entrer en scène Mademoiselle Nivelle, qui remplissait le principal rôle dans le ballet, le rôle de la fille du Mississippi. Le hasard l'avait placé entre M. le baron de Barbanchois et M. le baron de la Hunaudaie. « Hein ? » fit-il en leur donnant à chacun un coup de coude. « Comment trouvez-vous ça ?» Les deux barons, tous deux hauts sur leurs jambes comme des hérons, abaissèrent jusqu'à lui leur regard dédaigneux. « Est-ce stylé ? » poursuivit le gros petit traitant. « Est-ce dessiné ? Est-ce léger ? Est-ce brillant ? Est-ce doré ? La jupe seule me coûte 130 pistoles. Les ailes vont à 32 louis. La ceinture vaut 500 écus. Le diadème, une action entière. Bravo, adoré ! Bravo !» Les deux barons se regardèrent par-dessus sa tête. « Une si belle créature !» dit le baron de Barbanchois. « Prendre ses nippes à pareille enseigne !» continua le baron de la Hunaudaie. Et tous deux, se regardant tristement par-dessus la tête poudrée du gros petit traitant, ajoutèrent à l'unisson « Où allons-nous, monsieur le baron, où allons-nous ?» Un tonnerre d'applaudissements répondit au premier bravo lancé par Auriol. La Nivelle était ravissante, et le pas qu'elle dansa au bord de l'eau, parmi les nénuphars et la folle avoine, fut trouvé délicieux. Sur l'honneur, ce monsieur Lowe était un bien brave homme d'avoir inventé un pays où l'on dansait si bien que cela. La foule se retournait pour lui envoyer tous ses sourires. La foule était amoureuse de lui. La foule ne se sentait pas de joie. Il y avait pourtant là deux âmes en peine qui ne prenaient point part à l'allégresse générale. Coquardas et Passepoil avaient suivi religieusement, pendant 10 minutes, Mademoiselle Cydalise et son domino rose. Puis le domino rose de Mademoiselle Cydalise avait tout à coup disparu, comme si la terre se fût ouverte pour l'engloutir. C'était derrière le bassin, à l'entrée d'une sorte de tente en feuilles de papier gaufré, représentant des feuilles de palmier. Quand Coquardas et Passepoil y voulurent entrer, deux gardes françaises leur croisèrent la baïonnette sous le menton. La tente servait de loge à ces dames du corps de ballet. « Capé des biou, mes camarades !» voulut dire Coquardas. « Au large !» lui fut-il répondu. « Mon brave ami !» fit à son tour Passepoil. « Au large !» Ils se regardèrent d'un air piteux. Pour le coup, leur affaire était bonne. Ils avaient laissé envoler l'oiseau confié à leurs soins, tout était perdu. Coquardas tendit la main à Passepoil. « Et donc, mon bon, dit-il avec une profonde mélancolie, nous avons fait ce que nous avons pu. »« La chance n'y est pas, voilà tout, » riposta le Normand. « As pas pur, c'est fini de nous. Mangeons bien, buvons bien, tant que nous sommes ici. Et puis, ma foi, bah adios, comme ils disent là-bas. » Frère Passepoil poussa un gros soupir. « Je le prierai seulement, dit-il, de me dépêcher par un bon coup dans la poitrine. Ça doit lui être égal. »« Pourquoi un coup dans la poitrine ? » demanda le Gascon. Passepoil avait les larmes aux yeux. Cela ne l'embellissait point. Coquardas dut s'avouer à cet instant suprême qu'il n'avait jamais vu d'homme plus laid que ça Caillou. Voici pourtant ce que répondit Passepoil en baissant modestement ses paupières sans cils. « Je désire, mon noble ami, mourir d'un coup dans la poitrine, parce que, ayant été habitué généralement à plaire aux dames, il me répugnerait de penser qu'une ou plusieurs personnes de ce sexe, à qui j'ai voué ma vie, puissent me voir défigurer après ma mort. »«
Pécaire !» grommela Coquardas.
Mais il n'eut pas la force de rire. Ils se mirent tous les deux à tourner autour du bassin. Ils ressemblaient à deux somnambules marchant sans entendre et sans voir. C'était quelque chose de bien curieux que le ballet intitulé « La fille du Mississippi ». Depuis que le ballet était inventé, on n'avait rien vu de pareil. La fille du Mississippi, sous les jolis traits de la Nivelle, après avoir papillonné parmi les roseaux, les nénuphars et la folle avoine, appelait gracieusement ses compagnes, qui étaient probablement des nièces du Mississippi, et qui accouraient tenant à la main des guirlandes de fleurs. Toutes ces dames sauvages, parmi lesquelles était Cydalise, Mademoiselle des Bois, Duplan, La Fleurie et les autres célébrités sautantes de l'époque dansaient un pas d'ensemble à la satisfaction universelle. Cela signifiait qu'elles étaient heureuses et libres sur ces bords fleuris. Tout à coup, d'affreux indiens, nullement vêtus et coiffés de cornes, s'élancèrent hors des roseaux. Nous ne savons quel degré de parenté ils avaient avec le Mississippi, mais ils avaient bien mauvaise mine. Gambadant, gesticulant, exécutant des pas épouvantables, ces sauvages s'approchèrent des jeunes filles et se mirent en devoir de les immoler avec leurs haches afin d'en faire leur nourriture. Bourreaux et victimes, pour bien expliquer cette situation, dansèrent un menuet qui fut bissé. Mais au moment où ces pauvres filles allaient être dévorées, les violons se turent et une fanfare de clairons éclata au loin. Une troupe de marins français se précipita sur la plage en dansant vigoureusement une gigue nouvelle. Les sauvages, toujours dansant, se mirent à leur montrer le poing, et les demoiselles dansèrent de plus belle en levant leurs mains vers le ciel. Bataille dansante. Pendant la bataille, le chef des Français et celui des sauvages eurent un combat singulier qui était un pas de deux. Victoire des Français, figurée par une bourrée, déroute des sauvages par une courante. Puis, pas des guirlandes, représentant sans équivoque l'avènement de la civilisation dans ces contrées farouches. Mais le plus joli, c'était le final. Tout ce qui précède n'est rien auprès du final. Le final prouvait tout uniment que l'auteur du livret était un homme de génie. Voici quel était le final. La fille du Mississippi, dansant avec un imperturbable acharnement, jetait sa guirlande et prenait une coupe de carton. Elle montait en dansant le sentier abrupt qui conduisait à la statue du dieu son père. Arrivée là, elle se tenait sur la pointe d'un seul pied et emplissait sa coupe de l'eau du fleuve, pirouette. Après quoi la fille du Mississippi, à l'aide de l'eau magique qu'elle avait puisée, aspergeait les Français qui dansaient au bas. Miracle ! Ce n'était pas de l'eau qui tombait de cette coupe. C'était une pluie de pièces d'or. Fille de ceux qui ne saisiraient pas l'allusion délicate et bien sentie. Danse frénétique au bord du fleuve en ramassant les pièces d'or. Bal général des nièces du Mississippi, des matelots et même des sauvages qui, revenus à des sentiments meilleurs, jetaient leurs cornes dans le fleuve. Cela eut un succès extravagant. Lorsque le corps de balai disparut dans les roseaux, 3 ou 4 000 voix émues crièrent « Vive Monsieur Lowe !» Mais ce n'était pas fini. Il y eut une cantate. Et qui chanta la cantate? Devinez. Ce fut la statue du fleuve. La statue était le signor Angelini, première haute contre de l'opéra. Certes, il y a bien des gens pour dire que les cantates sont des poèmes fatigants et que les confiseurs suffisent pour occuper les bardes échevelés qui riment ces sortes d'absurdités. Mais nous ne sommes pas du tout de cet avis. Une cantate sans défaut vaut seule une tragédie. C'est notre opinion, ayons-en le courage. La cantate était encore plus ingénieuse que le ballet, si c'est possible. Le génie de la France y venait dire, en parlant du bon Monsieur Lowe, et le fils immortel de la Calédonie, aux rivages gauloises envoyés par les dieux, apporte l'opulence avec l'harmonie. Il y avait aussi une strophe pour le jeune roi et un couplet pour le régent. Tout le monde devait être content. Quand le dieu eut fini sa cantate, on le releva de sa faction et le bal continua. Monsieur de Gonzague avait été obligé de prendre place sur l'estrade pendant la représentation. Sa conscience lui faisait craindre un changement dans les manières du régent à son égard. Mais l'accueil de son Altesse royale fut excellent. Évidemment, on ne l'avait point encore prévenu. Avant de monter sur l'estrade, Gonzague avait chargé Pérol de ne point perdre de vue Madame la Princesse et de le faire avertir si quelqu'un d'inconnu s'approchait d'elle. Aucun message ne lui vint pendant la représentation. Tout marchait donc au mieux. Après la représentation, Gonzague rejoignit son factotum sous la tente indienne du rond-point de Diane. Madame la Princesse était là seule, assise à l'écart. Elle attendait. Au moment où Gonzague allait se retirer pour ne point effaroucher par sa présence le gibier qu'il voulait prendre au piège, la troupe folle de nos roués fit irruption dans la tente en riant aux éclats. Ils avaient oublié déjà leur mésaventure et disaient pique-pendre du balai et de la cantate. Chaverny imitait le grognement des sauvages. Nocé chantait, avec des roulades impossibles, « Et le fils immortel de la Calédonie », etc.
A-t-elle eu un succès ? Criait le petit Auriol. Bis, bis ! Le costume y est bien pour quelque chose.
Et toi, par conséquent, concluaient ces messieurs. Tressons des couronnes à Auriol, à ce fils immortel de la place Maubert.
La vue de Gonzague fit tomber tout ce bruit. Chacun prit attitude de courtisan, excepté Chaverny, et vint rendre ses devoirs.
« Enfin, on vous trouve, monsieur mon cousin, » dit Navaille. « Nous étions inquiets. »«
Sans ce cher prince, point de fête !» s'écria Auriol.
« Ah ça, cousin !» dit Chaverny sérieusement. « Sais-tu ce qui se passe ?»«
Il se passe bien des choses, » répliqua Gonzague.
« En d'autres termes, » reprit Chaverny, « t'a-t-on fait rapport de ce qui a eu lieu ici même tout à l'heure ?»«
J'en ai rendu compte à monseigneur, » dit Pérol.
« A-t-il parlé de l'homme au sabre de marin ?» demanda Nocé.
« Nous rirons plus tard, » dit Chaverny. « La faveur du régent est mon dernier patrimoine, et je ne l'ai que de seconde main. Je tiens à ce que mon illustre cousin reste bien en cour. S'il pouvait aider le régent dans ses recherches... »«
Nous sommes tous à la disposition du prince, » dirent les roués.
« D'ailleurs, » poursuivit Chaverny, « cette affaire de Nevers, qui revient sur l'eau après tant d'années, m'intéresse comme le plus bizarre de tous les romans. Voyons, cousin, as-tu quelques soupçons ?»«
Non, » répondit Gonzague.
« Rien qui te puisse mettre sur la voie ?»«
Si fait, » interrompit le prince, comme si une idée le frappait. « Il y a un homme... »«
Quel homme ?»«
Vous êtes trop jeune, vous ne l'avez pas connu. »«
Son nom ?»«
Cet homme-là, » pensait tout haut Gonzague, « pourrait bien dire quelle main a frappé mon pauvre Philippe de Nevers. »
« Son nom !» répétèrent plusieurs voix.
« Chevalier Henri de Lagardère. »«
Il est ici !» s'écria étourdiment Chaverny. « Alors c'est bien sûr notre domino noir »
« Qu'est-ce là ?» demanda Gonzague avec vivacité. « Vous l'avez vu ?»«
Une sotte affaire. Nous ne connaissons ce Lagardère ni d'Ève ni d'Adam, cousin. Mais si par hasard il était dans ce bal... »«
S'il était dans ce bal, » acheva le prince de Gonzague, « je me chargerai bien de montrer à son Altesse royale l'assassin de Philippe de Nevers. »«
J'y suis !» prononça derrière lui une voix mâle et grave. Cette voix fit tressaillir Gonzague si violemment que Nocé fut obligé de le soutenir. Au son de cette voix, Madame de Gonzague se leva toute droite, puis resta immobile, la main sur son cœur qui battait à rompre sa poitrine.